Bonjour, c'est Vincenzo, journaliste italien à Bruxelles, d'où je couvre des sujets des politiques européennes.
Et bonjour, moi c'est Hermine, j'ai contribué à la version française de ce podcast.
Comme promis dans mon précédent épisode des Voix de Bruxelles, me voici de retour avec un sujet de suivi sur la migration. Environ 5 000 personnes ont débarqué en Italie après avoir traversé la Méditerranée en 2022, soit près du double du nombre de l'année précédente. Pendant ce temps, un nouveau gouvernement a pris le pouvoir à Rome, dirigé par le premier ministre d'extrême droite, Giorgia Meloni. L'une de ses premières mesures a été de compliquer l'activité des navires des ONG de sauvetage des migrants en mer qui les débarquent sur les côtes italiennes. Dans son cas, cela a conduit à un différend entre les gouvernements italien et français sur les lieux de débarquement de 230 personnes par les navires Ocean Viking de l'ONG SOS Méditerranée.
Le navire a finalement accosté en France, provoquant un tremblement de terre dans la diplomatie européenne. Le gouvernement français a suspendu ses relocalisations de demandeurs d'asile depuis l'Italie et a fait pression pour une réunion extraordinaire des ministres européens de l'Intérieur. Marco Zani, qui préside le groupe d'extrême droite Identité et Démocratie au Parlement européen, est un membre du parti populiste Ligue, ou Lega, l'un des partis du gouvernement italien. Il défend ainsi la position de ce parti dans cet entretien, partagé par nos confrères de la Radio 24 à Milan.
Questo accordo multilaterale tra alcuni paesi volontario di ridistribuzione.
Le sujet même de cet accord multilatéral et volontaire de redistribution entre certains pays a donné peu de résultats. Sur les 8000 personnes qui, dans le cadre de cet accord, devaient être redistribuées depuis l'Italie vers ces pays, dont la France, d'ici la fin de cette année, je pense que nous en sommes à 134. En d'autres termes, il est clair que cet accord n'a pas fonctionné. Il est clair que s'asseoir à la table des discussions n'a pas fonctionné. Et il est tout aussi clair, malheureusement, qu'aujourd'hui, la seule arme dont dispose l'Italie pour se faire entendre et inciter non seulement les pays alliés, mais aussi les institutions européennes à agir, c'est de forcer la main, même via des actions unilatérales.
Ad agire è quello di forzare la mano anche con azioni unilaterali.
La Commission européenne a tenté de limiter les dégâts en proposant le 22 novembre aux États membres de l'UE un plan en 20 points pour la Méditerranée dite centrale, qui suit les tronçons de la mer Méditerranée entre l'Afrique du Nord et l'Italie. Les migrants tunisiens sont les plus fréquemment détectés dans cette région, mais aussi plus récemment les Égyptiennes et les Bangladais.
Le plan repose sur trois piliers, la collaboration avec les pays partenaires et les organisations internationales, une approche européenne plus coordonnée en matière de sauvetage, et enfin le renforcement de la mise en œuvre de mécanismes dits de solidarité volontaire, qui est basé sur la relocalisation de 8000 personnes des pays dits de première ligne, comme l'Italie ou la Grèce, et les efforts de mise en œuvre du nouveau pacte sur la migration et l'asile.
Les premiers piliers visent à renforcer la coordination avec les pays africains afin d'empêcher les personnes de quitter les côtes africaines. Non seulement la Libye, mais aussi la Tunisie et l'Égypte sont mentionnés dans les documents de la Commission.
Dans le deuxième pilier, ils ciblent les opérations de sauvetage menées par les ONG, en essayant d'encadrer leurs activités de sauvetage. La partie la plus contestée du plan concerne un cadre et des lignes directrices spécifiques pour les navires spécialisés dans les activités de recherche et de sauvetage qui seraient promus au sein de l'Organisation maritime internationale. Cela reflète probablement l'appel de l'Italie à un code de conduite des ONG, comme l'explique ici Matteo Villa de l'ISPI, l'Institut italien d'études sur la politique internationale, dans un interview à la Radio 24.
Maggiore attenzione alle, diciamo, salvataggi in mare. Qui il governo italiano.
Ici, le gouvernement italien peut dire qu'il a fait un pas en avant, tout en nuançant car, a-t-il dit, ce n'est qu'un plan de travail, un premier pas donc, pour entamer un dialogue sur quelque chose qui est au point mort depuis des années, sur les opérations de sauvetage en mer. Parce qu'il y a une allusion à la possibilité d'une sorte de code de conduite, des lignes directrices pour ceux qui effectuent des sauvetages en mer. Mais il n'y a pratiquement pas de contenu là-dedans, donc nous ne savons pas vraiment de quoi il s'agira à la fin.
Au final, l'idée principale semble être d'offrir de l'argent supplémentaire aux pays tiers qui bloquent les routes migratoires vers l'UE, une position qui a le soutien de tous les États membres, ajoute Matteo Villa.
Cependant, l'identification d'un consensus sur la troisième et dernière partie du plan d'action, qui traite de la relocalisation effective de demandeurs d'asile vers les pays de l'UE, est beaucoup plus compliquée. Pour l'instant, seul un mécanisme de solidarité volontaire est en place, avec environ 8000 promesses de relocalisation, dont seules quelques centaines ont effectivement eu lieu.
Lors d'un débat avec Radio 24, l'eurodéputé socialiste italien Pietro Bartolo a déclaré qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour l'Union européenne de parler d'une seule voix. Plutôt que de repousser les migrants, il s'agit de se concentrer principalement sur le partage des responsabilités entre les États membres, estime-t-il.
Nous l'avons très bien fait en ce qui concerne la guerre en Ukraine. Sans faillir, nous avons rassemblé plus de 5 millions de personnes et presque personne n'a bronché. Nous avons fourni tous les outils dont nous disposions et j'en suis fier. C'est l'Europe que je désire. Mais quand en revanche, devant quelques milliers de personnes, on tourne un regard hostile, c'est pas bien, c'est pas bien du tout. Même les propositions qui ont été faites par la Commission, encore aujourd'hui, ces propositions ne correspondent certainement pas à nos idées. Et la ligne rouge est celle d'une délocalisation automatique obligatoire, comme cela a été fait dans la législature précédente sur tous les États membres.
Mais la Méditerranée centrale n'est pas la seule région à revenir sur le devant de la scène. Plus à l'est, la route dite des Balkans occidentaux a enregistré la plus forte augmentation, avec des arrivées de migrants en hausse de 68%. Au cours des 10 premiers mois de 2022 par rapport à l'année précédente.
Cela inquiète plusieurs États membres de l'UE, comme en Autriche, où le nombre de demandes d'asile pourrait atteindre 100 000 cette année, contre environ 40 000 personnes en 2021. C'est pourquoi Bruxelles est venue avec un plan d'action similaire présenté le 6 décembre lors d'un sommet à Tirana. Pour en savoir plus, nous nous sommes rendus au Parlement européen, où Lukas Mandl, député européen du Parti populaire autrichien, nous a partagé les ressentis du gouvernement de Vienne face à cette nouvelle vague d'arrivées.
L'Autriche a pris en charge beaucoup de réfugiés depuis 2015, et ça veut dire quelque chose. C'est aussi une question de dignité humaine. Mais les racines du problème sont loin, et les racines sont encore une fois la désinformation, une mauvaise compréhension des possibilités et des opportunités en Europe, car seul un très petit nombre de personnes qui viennent ont en fait un droit d'asile, un droit à un titre.
L'une des raisons de cette augmentation des flux est la politique d'exemption des visas de la Serbie, dans laquelle de nombreux ressortissants des pays tiers entrent légalement pour franchir ensuite irrégulièrement les frontières avec les pays de l'UE.
So we have here some concern with the government of Serbia, which has opened a very irrational even.
Nous avons ici des inquiétudes avec le gouvernement de Serbie, qui a ouvert de manière très irrationnelle un voyage sans visa vers l'Europe pour les citoyens de pays ne reconnaissant pas la République du Kosovo. Imaginez, sans aucun lien avec le continent lui-même, une décision aussi néfaste, non seulement pour la Serbie, non seulement pour les Balkans occidentaux, mais aussi pour l'Europe dans son ensemble. Elle est prise par un État européen, qui n'est carrément pas un État membre de l'Union européenne et qui n'est manifestement pas prêt politiquement à le devenir. Nous devons donc aborder avec les États des Balkans occidentaux ce qui a fonctionné dans le passé, du moins la plupart d'entre eux, et ce que nous devons établir en partenariat. Et nous avons besoin de coopération avec eux.
Alors que la commissaire européenne Ylva Johansson a obtenu la promesse de la Serbie qu'elle alignera sa politique des visas sur celle de l'UE, l'Autriche a décidé de faire cavalier seul en signant un accord trilatéral avec la Serbie et la Hongrie pour renforcer la sécurité des frontières dans les Balkans. De plus, Vienne bloque l'accès à l'espace Schengen de la Bulgarie, pays qui attend en porte de l'espace de libre circulation européen depuis 2007. Les deux questions sont en fait assez liées, car aucun contrôle n'est requis aux frontières des deux pays de l'espace Schengen. Le gouvernement autrichien craint ainsi que cela n'augmente les flux migratoires vers l'Europe centrale.
Pour poursuivre mon enquête, je me suis rendu au Centre des politiques européennes, ou EPC, à Bruxelles. Là, l'experte en migration Helena Hahn a suggéré que l'augmentation de la route des Balkans occidentaux pourrait également être due à un effet temporaire.
Bien sûr, nous devons également tenir compte du fait que lorsque l'hiver arrive, les températures chutent. C'est généralement une raison pour laquelle les gens essayent une fois de plus de chercher un lieu sûr. Cela, bien sûr, change lorsque les températures remontent à nouveau. Et donc, pour cette raison, je pense que ce que nous voyons maintenant est en partie dû à des effets saisonniers.
C'est pourquoi le 6 décembre, la Commission a proposé pour cette région également un plan d'action de 20 mesures opérationnelles qui comprennent 6 pays visant à rejoindre l'Union européenne dans le futur. La Serbie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine, l'Albanie, le Monténégro et le Kosovo. Le contexte politique est donc très différent de celui de la Méditerranée, estime l'expert.
Mais en matière de coopération politique, l'UE a bien sûr joué un rôle, notamment lorsqu'il s'agit d'apporter une aide humanitaire aux migrants, aux réfugiés en Bosnie. Mais il y a généralement beaucoup de conversations embourbées dans les pourparlers d'élargissement en cours. Et cela crée une base de négociation très différente.
Bruxelles veut y renforcer les actions de Frontex, l'agence des frontières de l'Union européenne, dans des opérations de déploiement conjoint dans ces territoires, ainsi que mettre en œuvre des accords de réadmission avec les gouvernements des pays des Balkans. Les éléments de ce plan, qui sont autant de signes de la stratégie d'externalisation que l'UE a adoptée vis-à-vis des flux migratoires.
Nous avons constaté des efforts de la part de l'UE pour renforcer la coopération avec les pays des Balkans occidentaux, en ce qui concerne par exemple l'échange d'informations et de données. Et cela alimente bien sûr l'approche plus large de gestion des frontières que nous voyons. L'idée étant donc bien sûr que les informations sur les personnes qui voyagent ou franchissent les frontières soient échangées et diffusées plus en amont. J'ai déjà mentionné Frontex, qui est, je pense, un autre exemple de la façon dont les pays essayent ou font en sorte que les États membres de l'UE, et l'UE dans son ensemble, et les pays des Balkans occidentaux renforcent leur coopération.
Cependant, empêcher les gens d'atteindre l'Europe via les Balkans occidentaux semble être une tâche très difficile, même avec des règles de migration plus strictes, prévient l'expert.
Bearing in mind, of course, that statements made sometime after 2015-16.
Gardant à l'esprit, bien sûr, que les déclarations faites quelque temps après 2015 et 2016, qui annonçaient la fermeture de la route des Balkans, n'ont jamais reflété la réalité. Là, bien sûr, qu'il s'agisse d'un État membre individuel, de l'UE, cela ne serait pas possible, quels que soient les investissements que vous essayez d'y faire. Mais je pense que la nature politique de la coopération dans cette région est différente de celle de la coopération de l'UE avec les pays d'Afrique du Nord ou les pays de transit dans la région du Sahel, par exemple.
Il est évident qu'un changement radical est nécessaire. L'adoption du pacte sur la migration et l'asile en septembre 2020, sous tous ses aspects, reste la principale priorité de la Commission européenne et de nombreux États membres la soutiennent. Entre-temps, les autres institutions de l'UE, les États membres du Conseil et du Parlement, se sont engagés à parvenir à un accord sur la modification de l'ensemble de la politique migratoire de l'UE avant la fin de cette législature en 2024. Un objectif ambitieux et stimulant.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Ne manquez pas l'épisode de notre collègue Léa Marchal la semaine prochaine. À bientôt.